France Inter. José Sarrazin est chercheuse en écologie benthique au laboratoire Environnement Profond du Centre Ifremer de Bretagne et océanaute spécialiste des sources hydrothermales. Benthique, B-E-N-T-H-I-Q-U-E, c'est l'adjectif décrivant ce qui se trouve au fond de la mer, et Ifremer, l'acronyme de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Née au Québec, la scientifique installée à Brest depuis 2022 participe aux expéditions menées par la France pour explorer les abysses. Elle vient d'en dresser un atlas merveilleux aux éditions Artaud, coécrit avec la journaliste Stéphanie Brabant et illustré par Julie Terrazzoni. Titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement obtenu à Montréal, où José Sarrazin fut aussi coordinatrice de l'Institut des sciences de l'environnement, la curieuse souhaite rendre ses découvertes accessibles au plus grand nombre et multiplier les articles, publications, films ou narrations didactiques. Son post-doctorat s'est déroulé aux États-Unis, mais sa vie, elle, se passe fréquemment dans l'envers du monde terrestre, comme elle le nomme si joliment, à bord de sous-marins scientifiques grâce auxquels elle explore des territoires inconnus et littéralement obscurs. Il se peut que nous croisions des gastéropodes et autres créatures lointaines ce soir. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir José Sarrazin.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Oula, il y a beaucoup de choses qui m'enthousiasment. La dernière chose, peut-être, c'est la possibilité qui est devenue probante de jouer la pièce de théâtre sur les écosystèmes marins profonds que j'ai co-créée avec la compagnie brestoise Théâtre Piba en Jamaïque à l'Autorité internationale des fonds marins en juillet prochain.
Ah oui, ça c'est réjouissant.
C'est génial.
Et justement, le théâtre, pour vous, c'est une courroie de transmission merveilleuse, plus que des conférences.
Pas plus. Je pense que chaque action qu'on fait envers le grand public est différente et c'est pour ça que récemment je me suis intéressée pas mal aux arts et sciences parce que je trouve que c'est un excellent moyen de transmission, que l'émotion en fait ça permet d'ouvrir une petite porte et après les gens sont plus réceptifs à entendre des mots comme benthique ou...
Oui parce que j'ai dû chercher beaucoup de mots pour préparer cette émission. Et alors pour le théâtre vous collaborez notamment avec Pierre-Marie Sarrazin. Mais alors ça ne s'invente pas, Sarrazin et Sarrazin.
Ouais, on s'est ramassé dans le même labo, on publie ensemble, on fait plein de projets ensemble, mais voilà, on a une petite lettre de différence.
Alors, il y a quelque chose de frappant, c'est que votre premier environnement, c'était la forêt québécoise.
Ouais.
Et la mer, vous ne l'avez découverte qu'à 14 ans.
Et oui. Parce que oui, le Québec n'est pas bordé de mer et la mer est quand même assez loin en Gaspésie. Donc, j'ai pas eu l'occasion, enfant, de y aller. Et c'est grâce à une copine, les parents d'une copine qui m'ont emmené à Virginia Beach aux États-Unis où j'ai vu la mer pour la première fois et où j'ai été conquise et époustouflée. C'est vrai que ça m'a vraiment suscité une émotion énorme de voir cette espèce de masse d'eau immense.
Est-ce que si on pouvait respirer sous l'eau, vous vivriez sous la mer ou vous resteriez tout de même sur Terre ?
Oh, j'aime bien la Terre aussi quand même.
Il y a des gens sympas aussi parfois. Alors avant votre doctorat en sciences de l'environnement, vous avez fait une maîtrise en océanographie et une licence en écologie terrestre. Donc il y a aussi la Terre dans vos études et dans votre champ d'investigation.
Oui, au départ, en fait, au Québec, il n'y avait pas de biologie marine à l'époque. Donc, j'ai commencé par l'écologie terrestre. La biologie me plaisait beaucoup. C'est à la dernière année de licence où je me suis dit quand même, j'aimerais bien voir la biologie marine, ce que ça peut donner. Et j'avais fait un échange interuniversitaire avec l'université de Nice à l'époque. Et là, j'avais fait mes premiers pas sur la biologie marine et ça a vraiment confirmé que c'était ça que j'avais envie de faire.
On va parler dans un instant de votre atlas des abysses. Et je voulais savoir si vous aviez déjà côtoyé des abysses sur Terre, c'est-à-dire métaphoriquement dans votre âme. Sans être indiscrète, sans que vous détailliez les abysses, mais est-ce que vous en avez connu ?
Qui n'a pas connu d'abysses ?
Oui, évidemment, très, très bonne réponse.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
T'as compris ? On part. Comment pas? On devait partir dans deux jours.
Ça me regarde. Hier soir, je t'ai pas non plus consulté pour partir de la Villette.
Oh, hier soir, c'était le passé, mais le passé, le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me reproche? Je dors pas, c'est une affaire entendue, mais c'est pas une raison. Tout de même.
Mais il s'agit pas de toi.
De qui s'agit alors?
La patronne qui est partie.
Bon, elle va revenir, la patronne, d'une minute à l'autre. Dans une heure, et même qu'elle reviendra demain.
Mais demain? Dans 5 minutes, j'en voudrais plus.
Ben, au moins, laissez-moi reposer. On a dit qu'on restait 2 jours à quai.
On part tout de suite pour Corbeil, comme d'habitude. Allez.
1934, Jean Dasté et Michel Simon dans L'Atalante de Jean Vigo. Et là, vous me voyez venir, José Sarrazin, puisque vous êtes chercheuse à l'Ifremer, exploratrice des abysses. Et votre dernière campagne a eu lieu sur L'Atalante avec le ROV Victor. On dit ROV ou ROV?
On dit ROV.
Alors, c'est quoi ce submersible? C'est quoi un ROV?
Un ROV, c'est pour Remotely Operated Vehicle, c'est des sous-marins téléguidés en fait. On a 2 façons d'explorer les abysses. On utilise soit des sous-marins habités, comme le Nautil, où là on a des gens à bord, ou des robots, comme les ROV. Et voilà, où là c'est un ROV qui est téléguidé à partir de la surface du bateau et où tout le monde a accès en fait aux images des grandes profondeurs.
En août dernier, vous étiez sur le champ hydrothermal Lucky Strike au large des Açores.
Oui.
Le champ hydrothermal Lucky Strike, ça fait à la fois rêver et on imagine plein de poissons qui fument.
Ben, en fait, les sources hydrothermales, ce sont des fumeurs noirs.
Donc, ben oui, il y a des fumées noires.
Il y a des fumées noires. Donc, l'histoire du nom de ce champ, c'est double en fait. Il y a cette allusion finalement aux fumeurs noirs, évidemment. Mais il y a aussi Lucky Strike, ça veut dire une pêche chanceuse. Et parce que c'est des géologues qui ont remonté en fait des roches volcaniques de cet endroit-là. Et du coup, ils l'ont appelé, c'était une Lucky Strike, parce qu'ils ont relevé justement des évidences qu'il y avait potentiellement des sources hydrothermales en dessous.
Alors justement, les sources hydrothermales, c'est des geysers d'où jaillit une eau à 350 degrés.
Mm-hmm.
Leur découverte remonte à 77.
C'est ça. Ça a été découvert au large des îles Galapagos. En fait, c'était des géologues qui allaient vérifier un peu l'histoire de la tectonique des plaques. Et ils s'attendaient à trouver des sources d'eau chaude, mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était de trouver une faune complètement luxuriante autour de ces évents d'eau chaude. Et ça a été un petit mystère pendant une bonne année avant qu'on découvre pourquoi, en fait, on pouvait avoir une faune si abondante dans les grandes profondeurs où, normalement, il y a très peu de nourriture.
Vous rendez dans les fonds marins depuis plus de 25 ans et vous allez retourner sur l'Atalante en août, septembre.
Yes, avec le Nautil cette fois, donc avec le sous-marin habité.
Est-ce qu'on se prépare physiquement quand on fait ça?
Pas vraiment. On est testé pour la claustrophobie parce que c'est des petites enceintes qui font 2 mètres cubes où on est 3 personnes pendant 9 heures. Donc c'est très étroit, il y a des boutons partout et tout ça.
Et vous dormez jamais sous l'eau?
Non, non. Les plongées, c'est 9 heures maximum, parce que voilà, c'est très étroit, il n'y a pas de toilette non plus. Hein, faut...
Comme, ah waouh.
Oui.
Mais comment vous faites pendant 9 heures?
Eh bien, pour les filles, c'est un peu plus compliqué.
Oui.
Maintenant, on a trouvé un petit truc, on s'amène des topettes, là, comme on fait sur les petites embarcations. Et maintenant, on a cette solution-là, mais traditionnellement, en fait, on ne buvait pas pendant très longtemps avant la plongée pour éviter justement d'avoir envie de faire pipi au fond.
Oui, on ne pense pas à ces détails-là.
Non, on ne pense pas à ces détails-là. Ouais.
Ouais.
Donc, on n'est que testé pour la claustrophobie, mais sinon, c'est à pression atmosphérique, comme quand on est dans un avion, finalement.
Mais vous sortez de cette capsule à un moment?
Non.
Ah voilà, et quand vous faites les prélèvements alors, parce qu'il y a des températures absolument glaciales, il y a des températures très très chaudes, comment vous faites pour prélever les échantillons?
Eh bien les sous-marins, que ce soit les ROV ou les sous-marins habités, ont des bras qui permettent de prélever des cailloux, de la faune. On a aussi des aspirateurs à faune pour aspirer la faune de plus petite taille. On a des espèces de sondes qui nous permettent d'échantillonner de l'eau. Donc on a toutes sortes de moyens. Et c'est vraiment les pilotes du sous-marin en fait, qui actionnent les bras et tous ces instruments qui nous servent à prélever tout ce qu'on a besoin pour faire nos études.
Alors il y a beaucoup de mystères et de poésie dans le langage scientifique. Pouvez-vous nous parler du benthos?
Alors, le benthos, c'est la faune qui vit sur le fond. Ça peut être, c'est pas nécessairement dans les grands fonds marins. On a du benthos, toutes les moulières qu'on peut avoir dans la zone de balancement des marées, c'est du benthos. Contrairement aux animaux qui vivent dans la colonne d'eau, les poissons, tous les organismes pélagiques. Donc là, on parle du pélagos. Donc, benthos et pélagos, c'est les deux entités de la mer, finalement.
Et l'environnement profond, c'est à partir du moment où la lumière du soleil ne pénètre plus.
C'est ça.
C'est 200-300 mètres,
ça dépend de où on se trouve sur la planète. Mais la grosse caractéristique, c'est l'absence de lumière, l'absence de photosynthèse, des températures froides. Voilà, ça c'est ce qui caractérise le profond. Et ça descend jusqu'à 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes.
Alors dans votre atlas, on apprend les différents noms des profondeurs et c'est absolument magnifique. Il y a la zone crépusculaire, la zone de minuit, la zone abyssale, puis Adal, en référence à Hadès, le dieu des enfers.
Ouais, voilà, dans les grandes fosses, ouais.
Vous avez déjà eu peur dans les abysses ?
Non. Non, on n'a pas peur. En 25 ans, j'ai fait à peine une dizaine de plongées, parce que les occasions sont quand même rares. Donc quand c'est ton tour, t'es excité plutôt qu'apeuré.
Alors, on a parlé du froid et du chaud, parce que moi, je vous imaginais braver des températures vraiment à laquelle un être humain, normalement, ne peut pas résister. Et il y a aussi une chose qu'il faut imaginer, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Donc, vous êtes dans l'obscurité totale avec des projecteurs.
Voilà, ouais. Chaque engin a des projecteurs et on filme aussi toutes les plongées. Donc ces images nous servent aussi beaucoup à étudier le milieu. Voilà.
Est-ce que vous faites des rêves parfois avec des fonds marins dedans ?
Ah non, rarement.
C'est vrai ?
Non.
Votre premier embarquement, c'était en 91 ?
95.
Ah d'accord, je pensais que c'était un navire de recherche dans le cadre d'un cours d'océanographie expérimentale.
Ah oui, embarquement, oui, parce qu'à l'époque, oui, c'était lors d'un cours d'océanographie expérimentale. C'est la première fois où j'ai vraiment connu c'était quoi d'embarquer sur un bateau scientifique, mais on travaille, là on faisait des études de surface. Mais c'est vrai que j'ai fait mes premières armes et c'est là vraiment où je suis tombée en amour avec le hauturier. Et je me suis dit, il faut absolument que pour ta thèse, tu trouves un sujet où tu pars sur un bateau océanographique. Et c'est ça qui, effectivement, qui a lancé ma carrière, en fait.
Et justement, l'embarquement dont vous parliez juste avant, je crois que vous avez été accueilli par une cheminée hydrothermale de 12 mètres avec une sorte de feu d'artifice de ver géant. Est-ce que vous pouvez raconter ça pour les auditeurs ? Parce que c'est dur à visualiser.
Ouais, en fait, c'était pendant ma thèse de doctorat, j'étudiais une cheminée qui s'appelait Smoke and Mirrors.
Mais alors, c'est quoi une cheminée ? Parce que là, on voulait...
Une cheminée, alors, en fait, les sources hydrothermales, il faut s'imaginer, c'est... alors, on va partir du début, on est sur des dorsales océaniques, donc c'est là où s'écartent les plaques, et à ces endroits-là, c'est volcaniquement et tectoniquement très actif, donc le plancher océanique va être fissuré, ce qui va permettre à l'eau de mer, finalement, de s'infiltrer dans la croûte océanique, et comme on est très proche des champs magmatiques, cette eau de mer, au contact des roches chaudes, va modifier sa chimie, se réchauffer et ressortir pour former un espèce de geyser qu'on appelle une source hydrothermale. Mais comme ce fluide qu'on appelle maintenant le fluide hydrothermal, il est très chaud, il peut atteindre jusqu'à 400 degrés Celsius, il arrive au contact avec l'eau de mer qui, elle, est entre 2 et 4 degrés Celsius. En fait, tous les éléments chimiques qui sont contenus dans ces fluides vont précipiter, donc vont se solidifier. Et c'est petit à petit, en fait, que cette pluie de particules va s'amonceler pour former des espèces de grandes structures qu'on appelle les cheminées hydrothermales, qui peuvent atteindre, je pense que la plus haute qu'on a répertoriée, elle faisait 45 mètres de haut.
Et c'est tout noir, ça ressemble à quoi ?
C'est de la roche, hein, c'est une espèce de monticule de roche. On pourrait comparer ça à un méga stalagmite. Voilà, pour l'image. Et autour, en fait, de ces structures hydrothermales, on a une faune particulière qui va vivre là. On parle d'endémisme, donc c'est une faune qu'on va retrouver que autour des sources hydrothermales. Pourquoi ? Parce que les conditions sont extrêmes. On a la température chaude, on a un pH acide, on a des métaux lourds, donc c'est vraiment un environnement hyper contraignant. Et c'est grâce à des bactéries et des archées qui vont utiliser l'énergie chimique qui est dans les fluides. Et ces bactéries vont former de la matière organique qui vont être à la base de la chaîne alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des oasis de vie, parce que tout d'un coup, au niveau du plancher océanique, la faune n'attend pas ce qui arrive, la matière qui arrive de la surface, mais il y a une matière qui est produite localement, qui permet à une faune complètement luxuriante de se développer. Et donc, Cette fameuse cheminée Smoke and Mirrors, je l'étudiais pendant ma thèse de doctorat à l'aide d'images vidéo parce que je travaillais avec des ROV, mais j'avais jamais plongé. Et donc, je la connaissais assez bien d'avoir cartographié la faune, d'avoir répertorié. Et c'est vrai que ma première plongée, j'ai découvert en fait, j'ai compris plein de choses parce que c'est pas pareil de s'imaginer une structure qui fait 12 mètres de haut dans sa tête avec des images 2D et là d'être à côté avec le sous-marin et de remonter les parois de cette cheminée, de dire que les fluides qui sortent là ils sont à 300 degrés Celsius. Et là, l'apothéose, c'était qu'il y avait un grand champ de verre géant qu'on appelle des ciboglinidés.
Ça fait quoi, 17 cm?
Là, ils faisaient 60 cm avec des branchies très très rouges. Et leur tube est blanc et ça faisait, ils sont présents en buisson de centaines d'individus et ils n'étaient pas là sur mes images vidéo que j'avais étudiées, donc c'était vraiment comme un cadeau, quoi. C'était chouette.
Pilot, we'll wait for your word to release the ROV.
Pilot copies.
Drive ahead, pilot.
Pilot's pushing ahead.
Copy that. Push ahead hard.
Hard.
Lines are clear. Let's descend 15 meters a minute. Hold at 50.
Pilot copies descending.
Alors là, on entend de l'anglais, mais c'est extrait d'un film en breton, avec quelques passages en anglais et en français, pour lequel vous avez été conseillère scientifique, José Sarrazin, Mézoganet et Craig Armore, d'Emmanuel Roy, sorti en 2020. Pour vous, la vulgarisation au sens noble, c'est-à-dire rendre le savoir accessible au plus grand nombre, c'est très important. Vous avez participé, vous avez co-réalisé des films, fait des CD-ROM, fait une petite entreprise de communication pour cela. Vous avez été conseillère d'une exposition, vous collaborez à des pièces de théâtre, vous l'avez dit tout à l'heure. Et je crois que vous faites des conférences les yeux bandés. Ça vient d'où cette idée ?
Ben en fait, ça vient justement de ma collaboration avec Théâtre Piba, parce qu'en fait, la pièce de théâtre qu'on a co-créée avec cette compagnie, qui porte sur les écosystèmes marins profonds, toute la première partie, en fait, les spectateurs ont les yeux bandés et ils sont avec des casques à entendre des sons 3D qui ont été pris à bord du navire et avec une narration d'un texte de David Valle par des comédiens. Et donc, c'est vraiment avec eux que je me suis rendu compte de la force, finalement, de l'émotion et qu'en fait, on n'avait pas besoin de voir pour plonger dans ces écosystèmes. On s'est battu pas mal avec mon collègue Pierre-Marie Saradin, avec le directeur artistique, là, Thomas Cloirec, parce que nous, quand on a imaginé cette pièce, on s'est dit, on va projeter des images de sources hydrothermales, parce que c'est merveilleux et tout ça. Puis Thomas, il a dit, non, moi, je veux pas d'images. Et pour nous, c'était inconcevable. Et il a tenu son bout. Et en fait, ça s'est avéré être un super choix, parce que les gens, ils nous disaient, je me suis vraiment imaginé être dans les fonds. J'ai essayé de recréer toutes les images et j'ai fait vraiment une plongée à l'intérieur de moi-même. C'était vraiment très introspectif et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, ça suscitait la curiosité. Puis les gens ils disaient, je vais aller voir sur Internet, c'est quoi une source hydrothermale. Donc, c'est vraiment par le biais de l'émotion, de la sensation que les gens rentrent dans l'univers. Et après, comme je disais, s'approprient la science qu'il y a derrière. Et donc, je me suis dit, dans les conférences, ça peut être sympa aussi d'expérimenter ça. Et je l'ai fait quelques fois. Mais c'est vrai que ça déplace, ça change. Et les gens sont attentifs à autre chose. Finalement.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
An American nuclear submarine went down. Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue.
My people are not qualified for this. We're oil workers.
Lieutenant Koff, we'll transfer it down to you with a SEAL team.
You'll do absolutely nothing without direct orders from me.
There is something down there. Something not us. Not human.
La bande-annonce du film Abyss de James Cameron, sorti en 1989. José Sarrazin, vous publiez un atlas des abysses chez Artaud, en collaboration avec la journaliste Stéphanie Brabant, grand reporter pour l'émission Thalassa, et l'illustratrice naturaliste Julie Terrazzoni. C'est un émerveillement à chaque page. Et on découvre que, en fait, les grands fonds marins représentent 66% de la surface de notre planète. Or, on n'en a même pas cartographié 25% et on en a à peine exploré 1%. Ouais. L'enjeu est colossal.
C'est énorme. Ouais. Ça, c'est vrai que on explore des corps célestes à l'extérieur de notre planète alors qu'on connaît même pas ce qu'il y a vraiment chez nous finalement.
Et selon une étude de 2010, il resterait entre 1 et 10 millions d'espèces à découvrir dans les océans.
Ouais. Bah ouais, c'est le travail est colossal, c'est sûr, et c'est vrai que même l'identification de toutes ces espèces, ça demande des spécialistes, et c'est la taxonomie, on appelle ça des taxonomistes, hein, les gens qui décrivent les espèces, et c'est vrai que y a de moins en moins de taxonomistes dans le monde, alors que le besoin il est immense.
Bon, écoutez, si c'est votre vocation, chers auditeurs, allez dans ces endroits où les décors, je l'ai appris en vous lisant, José Sarrazin, sont des montagnes, des dorsales et des canyons.
Oui, bah oui.
Alors, parlons des habitants. Parce que longtemps, on a imaginé que les fonds marins étaient dépourvus de vie, faute de photosynthèse. Tout à l'heure, vous avez fait l'ébauche, justement, du phénomène qui s'appelle chimiosynthèse, voilà, qui n'a pas besoin de lumière. Mmh. Et on apprend dans votre livre que les écosystèmes vivent grâce aux cadavres de baleines qui tombent au fond de la mer. Et un cadavre de baleine, ça peut leur faire un repas pendant 25 ans.
Oui, c'est énorme, ça, ouais.
Ça a été énorme.
Ouais. C'est, en fait, c'est un scientifique qui a découvert ça dans les années 2000. En fait, il a croisé par hasard une carcasse de baleine en se promenant sur le fond avec un submersible. Et ce qui l'a intrigué, c'est qu'il a vu des organismes qui ressemblaient à celles des sources hydrothermales. Et du coup, il s'est dit, c'est bizarre quand même. C'est intriguant. Et ce qu'il a décidé, c'est de mener une expérimentation. Donc, il a immergé des cadavres de baleines qu'il a récupérés et il a regardé la dégradation de ces carcasses au cours du temps. Alors, au début, c'est les gros requins, les nécrophages, les petits amphipodes, les petits crustacés qui viennent manger la chair. Et après, il ne reste que les os. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'au cours du temps, la dégradation de ces os formait de l'hydrogène sulfuré. Et c'est cet hydrogène sulfuré qui était utilisé par des micro-organismes et qui devenait la base d'une autre chaîne alimentaire chimiosynthétique et donc qui permet à des communautés de vivre pendant plusieurs dizaines d'années. Alors on s'imagine ce que la chasse aux baleines a pu générer dans les grands fonds marins, c'est-à-dire que toutes ces ressources qui étaient utilisées pour le développement de ces communautés chimiosynthétiques se sont morcelées au fil du temps et donc avec un impact potentiel sur la vie dans les grands fonds.
Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Éloignez-vous des tentacules, ils ne lâchent qu'avec la mort ce qu'ils ont réussi à saisir. Cet animal n'est vulnérable qu'en un point entre les yeux.
12 mètres de la surface, capitaine.
Tenez-vous prêt.
Adaptation de 20 milieux sous les mers de Jules Verne par Richard Fleischer en 1954. José Sarrazin, les créatures qu'on découvre dans votre Atlas des Abysses semblent sorties de l'imaginaire de Jules Verne.
C'est vrai.
Vous parlez par exemple du calmar géant qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres de long, tentacule déployé. Il a été filmé à plus de 4000 mètres de profondeur. Et Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer, écrivait à propos d'une créature sous-marine de cet acabit, elle a un aspect de scorbut et de gangrène, c'est de la maladie arrangée en monstruosité.
Ouais, je sais pas, ouais. Moi,
vexant.
Je trouve ça plus inspirant que ça, quand même. C'est quand même pas moche, un calmar géant.
Mais alors, grâce à vous, on apprend que leurs becs, ils ont des becs,
ouais,
sont parfois retrouvés au fond de l'estomac des cachalots, et ils sont très prisés d'une profession.
Oui, par les parfumeurs. Ouais, c'est l'ambre gris. Voilà, et apparemment ça n'est plus utilisé parce que ça a été remplacé par des molécules chimiques, mais l'ambre gris était très prisé, et c'était vraiment, ça coûtait hyper cher, quoi, et ça donnait, apparemment ça relevait les parfums, en fait, ça je sais pas par quel procédé, mais...
Alors, parmi les calmars, il y a le Vampiro Teutis Infernalis, le vampire de l'enfer, qui a pourtant l'air assez mignon, et n'a du vampire que l'habillement, si on peut dire.
Bah oui.
Parlez-nous de lui.
C'est un poulpe avec des tentacules et tout ça. Il est un peu rougeâtre, donc et puis après il y a de la bioluminescence qui peut le peut a priori faire peur. Mais
alors,
en fait,
c'est la bioluminescence, c'est la lumière.
Donc, c'est la production de lumière par des enzymes, en fait, et qui, dont les animaux des abysses se servent beaucoup de la bioluminescence, soit pour se chercher un partenaire, soit pour attirer leur proie, soit pour se camoufler des prédateurs. Donc, c'est vraiment un procédé qui sert à plein de choses dans les grands fonds. Il y a un grand pourcentage des organismes qui sont capables de bioluminescence.
Et alors le Batophilus flemingi, le dragon des enfers, alors lui on dirait vraiment un film d'horreur.
Ah bon, vous trouvez ?
Ah bah oui. Ah bah oui, on dirait, vous avez vu Beetlejuice ?
Oui, c'est vrai.
Le ver du désert là.
Ouais.
Ouais. Ouais. Il a des dents quand même, c'est-à-dire que c'est un orifice avec des dents tranchantes tout le long de la bouche. Bah oui, non, il ne vous fait pas peur. Aucune apparence de créature ne vous fait peur ?
Non, non, pas vraiment, non.
Est-ce que ça vous rend plus tolérante pour votre prochain humain ?
Peut-être. Peut-être.
Et alors le poisson revenant, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire de fantômes, de vampires et tout ça. Il y a le poisson revenant et le requin fantôme, le Frankenstein des abysses.
Le Frankenstein des abysses, ouais.
Pourquoi ? Il est balafré ?
Oui, il est balafré. Mais en fait, c'est comme ça, il est comme ça. C'est un poisson cartilagineux, un peu cousin des requins, qui a des sutures, il a des apparences de sutures à l'extérieur de son corps. Alors, voilà, c'est son apparence.
Et le poisson revenant ? C'est parce qu'il a une tête ronde qui fait de la lumière.
Après, c'est nous qui avons donné des noms un peu évocateurs
pour
rêver un peu.
Bah justement, c'est ce que je suis en train de faire là. Alors, il y a les fabuleux concombres, comme vous les nommez,
ouais,
qui sont des taches violettes et jaunes, on dirait de la peinture abstraite.
Ah oui ?
Ouais.
Ouais, ils ont une espèce d'appendice qui sort, qui est dans les airs, pas dans les airs, mais qui ressort d'eux. Mais bon, c'est vrai que si on les regarde, c'est vraiment ça. C'est une forme comme un concombre, en fait, et ils sont mignons.
Ouais. Et il y a le vagabond des mers qui ressemble à une chimère mi-crabe, mi-tortue, mi-cafard.
Ah oui, vous trouvez ?
Ouais, pas vous ?
Ah ouais. Ouais, non, ça ressemble plutôt à une espèce de cloporte.
Ouais.
Ouais,
je projette.
Crabe, tortue. Et alors, on n'a pas les mêmes crabes et les mêmes tortues.
Non, en tête. Parlez-nous des vers Ocedax.
Alors, les Ocedax, c'est des spécialistes, c'est les cousins, justement, de mes fameux Ciboglinidés que j'avais vus en haut de ma cheminée.
Les feux d'artifice de verre.
Sauf qu'eux, ils sont beaucoup plus petits. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des vers qui se spécialisent dans la dégradation des eaux. Donc des eaux de baleines et d'autres animaux. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que même si ce qu'on a déjà fait, on a immergé des eaux dans les grandes profondeurs, dans des endroits où on les trouvait a priori pas. Et en fait, ils ont la capacité en fait de trouver ce substrat dans l'immensité des océans. Ils vont venir s'installer sur les eaux. Et donc on imagine qu'ils auraient une capacité de reproduction assez phénoménale et qui fait qu'il y aurait des larves un peu partout et que, en fait, dès que le substrat est là, ils en profitent pour le coloniser.
Et justement, parlons un peu de leurs mœurs, parce que, alors, ils émettent du mucus et ils vivent en harem autour d'une seule femelle. Ils n'ont ni bouche, ni tube digestif, ni anus.
Ouais. C'est les mâles, en fait, qui vivent autour de la femelle. Il y a plusieurs centaines d'individus qui sont... Et c'est des mâles nains. Et en fait, ils sont là que pour féconder la femelle, et voilà.
Elle accouche de chacun d'entre eux.
Elle est fécondée par des centaines d'individus, et ça permet justement une prolifération assez rapide de ces...
Oui, on peut imaginer. Et alors, il y a les mangeurs d'eau, et puis il y a les mangeurs de bois, qui ressemblent à des orchidées.
Ah, des orchidées,
ouais.
Ah, c'est mignon. C'est des coquilles, en fait, des bivalves, qui ont une espèce de muscle qui vont leur permettre de forer, en fait, les bois. Et puis, ils ont aussi une enzyme qui permet de dégrader la lignine, donc le composé principal du bois, et de forer, justement, ces bois. Et du coup, comme ils forment des galeries Et plein de petites galeries à travers ces bois. Après, il y a d'autres animaux qui peuvent venir s'installer. Et du coup, ça permet à toute une communauté en fait, de se développer grâce à leur activité de forage initiale.
D'architectes, en fait.
Ah, oui. On les appelle les ingénieurs, d'ailleurs, des écosystèmes. C'est toutes ces espèces qui modifient l'écosystème pour en permettre à d'autres de coloniser, on les appelle les ingénieurs d'écosystèmes.
Et en parlant d'ingénieurs, justement, il y a des créatures sous-marines qui inspirent les ingénieurs terrestres, qu'on connaît un peu mieux. Par exemple, les éponges de mer qui sont des animaux, comme les coraux, qui sont étudiés, leur squelette est étudié par l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative.
Ouais. Apparemment, c'est des fibres très solides et qui sont assez complexes. Ils ont une résistance énorme et du coup, elles sont source d'inspiration. Comme beaucoup d'animaux des grands fonds ou même d'animaux terrestres, hein, on s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle le biomimétisme. On s'inspire beaucoup de ce que la nature nous offre comme solution pour développer plein de procédés différents.
Alors, on découvre aussi, grâce à vous, José Sarrazin, l'empereur, un poisson de 7 kilos qui a une tête de montre. Alors là, je laisserai les auditeurs le découvrir. La crevette acrobate, qui a un organe sensoriel, mais aveugle et se brûle parfois. Et Kiwa Hirsuta, alias King Kong, qui se mange elle-même et peut parfois être aperçue dans des clips en train de danser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Kiwa Hirsuta, c'est une galatée, donc une espèce de crustacé dont la découverte a fait le tour du monde. Je crois que c'est en 2009, si je ne me trompe pas. En fait, c'est un crustacé assez gros qu'on a découvert vraiment assez tardivement quand même. Et en fait, ses chélipèdes, donc ses pattes, sont couvertes de bactéries. Et pour alimenter ces bactéries, en fait, il va onduler ses chélipèdes dans le fluide hydrothermal pour que les bactéries aillent chercher les éléments chimiques. Et du coup, ça a donné lieu à plein de trucs délirants sur Internet. Il y a eu des doudous Kiwa Hirsuta, il y a eu des toutes sortes de... Des, ouais, énormément
De
détournements, dont des vidéos où ils ont mis de la musique. Et là, tu vois, en accéléré, on voit ces Kiwa Hirsuta agiter leur chélipède dans le fluide hydrothermal. C'est assez rigolo, ouais.
Ah bah moi, ça me fait penser à une vidéo de chauves-souris qu'on a filmée. Donc, elles sont suspendues par les pattes, tête à l'envers. On a retourné la vidéo, on l'a ralentie et on dirait qu'elles dansent sur de la musique New Wave. Bon, c'est très rigolo, je le conseille aussi aux auditeurs. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. C'est votre choix musical qu'on entend José Sarrazin, Another Brick in the Wall, Part 2, des Pink Floyd sur l'album The Wall. Ça vous a accompagné dans les profondeurs?
Oui, ma première plongée. Là, du coup, la descente, dépendamment de la profondeur où on descend, est assez longue. Et là, c'était dans le sous-marin américain Alvin, c'était ma première plongée. Et les pilotes avaient mis cette musique, et c'est vrai que c'est incroyable. Quoi. C'est à chaque fois que je l'entends maintenant, je me revois il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans en arrière. Voilà, descendre dans les abysses avec toute l'excitation, l'appréhension, le stress aussi, parce que là, à l'époque, j'étais une étudiante, je plongeais avec un émérite scientifique avec moi, j'avais la pression et tout, et du coup, c'est plein d'émotions, là. Je peux fermer les yeux et me revoir en 1995. Dans ma petite sphère, à attendre d'arriver sur le plancher océanique et de découvrir de visu ce que j'avais étudié sur mes images vidéo.
Est-ce qu'on le sent physiquement, le changement de pression lors de la descente ?
Non, pas du tout.
Pas du
tout ? Non, c'est comme dans un avion en fait, c'est vraiment pressurisé. Par contre, ce qu'on ressent, c'est petit à petit, comme on arrive, comme le fond des océans est assez froid, petit à petit, la sphère se met à suinter et il commence à faire très froid. Et donc, on commence légèrement habillé. Et plus ça va, plus on met des couches de laine et des bonnets et des chaussettes pour se tenir au chaud.
En 2017, on me propose une aventure inouïe. Des scientifiques me demandent d'intégrer une mission d'exploration des abysses et d'en écrire le récit. Nous embarquons aux Açores, nous naviguons jusqu'au milieu de l'Atlantique, au milieu de nulle part, et là, gros plouf, nous descendons explorer les abysses. Ou plus précisément, un très mystérieux écosystème, celui des sources hydrothermales. Ce sont de grandes cheminées élancées qui ressemblent à des termitières géantes situées à environ 7 tours Eiffel sous la coque de notre navire. Elles crachent des fumées noires et toxiques alors qu'on est sous l'eau à plus de 350 degrés. Les environnements comme celui-ci sont très peu connus. Oui, on les a découverts en 1977, bien après, par conséquent, avoir posé les pieds sur la Lune. Oui, c'est plus facile d'aller dans l'espace que dans nos profondeurs.
On entend David Valle en 2024 dans une conférence TEDx à Nantes. José Sarrazin, la découverte que vous souhaitez transmettre aux auditeurs, c'est un livre de lui, La vie profonde.
Oui, en fait, ça fait partie de l'expérience avec Théâtre Piva. Du coup, on a embarqué aussi David Valle qui a fait le texte de cette pièce de théâtre. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et puis les mots de David, c'est du Jules Verne moderne, je le dis tout le temps. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est en multipliant tous ces moyens, toutes ces façons de faire rêver qu'on va sensibiliser le grand public aux grands fonds marins et aussi aux menaces qui pèsent sur ces environnements.
Oui, parce que justement, il y a des enjeux économiques et géopolitiques qui sont énorme. Similaires à ceux de la conquête spatiale, voire plus. Et vous coordonnez, vous réfléchissez à la menace de l'exploitation minière.
Oui. Oui, parce qu'en fait, on exploite, pour l'instant, on exploite des ressources biologiques, la pêche. Et même des organismes des grands fonds marins. On a exploité le gaz, le pétrole de plus en plus profond. Mais là, les ressources que convoite l'industrie minière, c'est ce qu'on appelle les ressources minérales. Il y en a de trois types. On a les nodules polymétalliques dont on entend beaucoup parler, qui sont des espèces de petits galets qui vont recouvrir la plaine abyssale, qui vont être quelques centimètres de diamètre, qui vont être riches en cobalt, en nickel, en toutes sortes de composés chimiques dont on a besoin en fait pour...
Même pour des téléphones portables.
Pour nos téléphones portables, pour les ordinateurs, mais même pour ce qu'on appelle les énergies renouvelables, parce qu'en fait, que ce soit panneaux solaires ou éoliennes, on ne le dit pas assez, ça a besoin de ressources minérales, tous ces systèmes. Et donc, y a une demande accrue au niveau mondial de ces ressources minérales. Et donc, les ressources terrestres sont en train de se tarir, on va dire. Et puis, ces ressources ne sont pas distribuées équitablement sur la planète. D'où la recherche de ces ressources dans les grands fonds marins. Donc, il y a les nodules polymétalliques, il y a les encroûtements cobaltifères qu'on va retrouver. C'est des espèces de croûtes qu'on va retrouver autour des monts sous-marins, des croûtes de quelques centimètres d'épaisseur. Et puis, nos sources hydrothermales, parce que ces sources hydrothermales, quand elles sont actives pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et au bout d'un moment, elles se tarissent et elles ont formé des grands monts. Ce qu'on appelle des monts de sulfure massifs qui vont être très riches aussi dans ces composés chimiques d'intérêt commercial.
Alors, il y a des problématiques humaines et terrestres qui se retrouvent sous l'eau, ça c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Oui. Et est-ce qu'il y a des virus sous l'eau ?
Oui, il y a des virus. Il y a très peu d'études qui se sont intéressées aux virus dans les grands fonds marins, mais ça commence à se développer. Après, on ne sait pas trop quel est leur rôle, chez quel organisme ils se retrouvent, mais il commence à y avoir des gens qui étudient cet aspect-là. Ouais.
Comme le virus citron.
Voilà, comme le virus citron qu'on a trouvé, ça a été un des premiers virus qu'on a trouvé sur les sources hydrothermales. Par contre, on ne sait pas encore trop quel est son rôle. Voilà.
Vous avez nommé un site hydrothermal encore absent des cartes, Québec.
Oui.
Vous êtes comment le Marco Polo des abysses.
Ouais, c'était sur le Pacifique. Et j'étais à la plongée. On a découvert un grand champ de verre. Et du coup, je me suis dit... et le scientifique avec qui j'étais, il m'a regardé. Il m'a dit, tu veux lui donner un nom? Je dis, oui, Québec.
Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que la biomasse représenterait en fait la majorité de la vie sur Terre.
Oui, la biomasse des grands fonds marins, oui. Et particulièrement, on se rend compte qu'en subsurface, donc en dessous de la croûte océanique, c'est tout un réseau de fissures. Et là-dedans, en fait, on a trouvé des micro-organismes jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et oui, ça représenterait plus important, en fait, que la biomasse terrestre.
Alors, est-ce qu'on a le temps de découvrir encore quelques créatures ? Oui, un peu. Il y a des créatures qui ont une armure en aluminium. Les Lycianassoidea.
Voilà, c'est des petits amphipodes qu'on retrouve dans les grandes fosses à dalles.
Donc l'enfer, tout au fond.
Ouais, tout au fond. Je crois qu'elles vont jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Et en fait, il y avait une théorie qui disait que... À partir de plusieurs milliers de mètres de profondeur, je crois que c'est 4000 ou 5000 mètres de profondeur, l'acidité de l'eau faisait que la carapace des organismes, des crustacés, pouvait se dissoudre. Et quand on a trouvé cette espèce-là plus profond que cette théorie, on s'est dit comment ça se fait quoi, que cet amphipode survit à plus grande profondeur. Et du coup, on a découvert que justement, il s'agglomérait sur sa carapace de l'aluminium, qu'on ne trouve pas par ailleurs dans l'eau de mer, donc c'était autre mystère. Et finalement, on s'est rendu compte que potentiellement, le crustacé était capable d'aller chercher l'aluminium dans les sédiments et se couvrir de cette couche d'aluminium qui le protège de l'acidité environnante.
Alors, en parlant de métamorphose, justement, il y en a une qui est assez fascinante, c'est celle des tardigrades, aussi appelée ourson d'eau, qui serait apparue avant les dinosaures, qui pourraient vivre à des températures allant de 150 degrés à moins 272, et qui peuvent hiberner en se transformant en sorte de cristal déshydraté.
Ouais. Ouais, les tardigrades, c'est vraiment les super-héros qui fascinent tout le monde. Ils rentrent dans un état qu'on appelle la cryptobiose. Et ça leur permet, en fait, que leur ADN ne soit pas endommagé par des conditions. C'est pas que les températures. Hein, ils survivent à des radiations extrêmes, à des pressions extrêmes. C'est vraiment des costauds, quoi. Et cet état de cryptobiose, en fait, ils rentrent dans une espèce de dormance. Et puis, quand les conditions redeviennent optimales, ils reviennent à la vie, entre guillemets.
Il faudrait qu'ils nous apprennent ça. Merci beaucoup, José Sarrazin.
Merci à vous.
Votre Atlas des abysses, coécrit avec Stéphanie Brabant et illustré par Julie Terrazzoni, est paru chez Artaud. Bon voyage sur la Talente.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Mathias Volant, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Laurent Baudouin.